chantait. Il y a des années, cet homme trapu aux grandes mains montrait à une jeune fille de 14 ans, longue tresse blond foncé, comment préparer la crème brûlée parfaite. C'était le premier plat avec lequel j'avais impressionné mes amis. Bien entendu, Jackie n'était pas n'importe quel cuisinier. Jeune homme, il a œuvré dans la célèbre ferme Saint-Siméon à Honfleur, cette petite ville à la lumière si particulière, refuge des peintres et des artistes.
Ça avait déjà un peu plus d'allure, ma chère Aurélie.
Jackie a beau pester, je souris sans rien dire, parce que je sais qu'il ne me laisserait jamais tomber. Ce fut le cas l'année dernière, en ce mois de novembre, où le ciel était blanc comme du lait, où les gens marchaient d'un pas pressé dans les rues, d'épaisses écharpes en laine autour du cou. Un mois de novembre bien plus froid que tous ceux que j'avais connus à Paris. À moins que ce ne fût qu'une impression. Mon père était mort quelques semaines plus tôt. Sans crier gare, son cœur avait décidé d'arrêter de battre. Jackie l'avait trouvé un après-midi en ouvrant le restaurant. Papa était étendu paisiblement par terre, entouré de légumes frais, de gigots d'agneau, de coquilles Saint-Jacques et de fines herbes qu'il avait achetées le matin au marché. Il m'a légué son restaurant, les recettes de son fameux menu d'amour qui lui aurait permis de gagner l'amour de ma mère. Comme elle est morte quand j'étais très petite, je ne saurais jamais s'il m'a raconté des bobards. Et quelques phrases bien senties sur la vie. Il avait 68 ans et je trouvais que c'était bien trop tôt. Mais les personnes qu'on aime meurent toujours trop tôt, quel que soit leur âge.
Les années ne signifient rien. Seul compte ce que tu en fais, avait déclaré un jour mon père, en déposant des roses sur la tombe de ma mère.
Cet automne-là, tandis que je marchais sur ses traces, un peu abattue mais déterminée, je me rendis compte que j'étais désormais seule au monde, pour ainsi dire. Et cette révélation me heurta de plein fouet.
Dieu merci, j'avais Claude.
Il était décorateur de théâtre, et l'immense bureau placé sous la fenêtre de son petit atelier, quartier de la Bastille, croulait toujours sous les dessins et les modèles réduits en carton. Quand il avait une commande importante, il lui arrivait de disparaître pendant quelques jours.
« Je ne serai pas disponible la semaine prochaine », disait-il alors.
Et je devais accepter qu'il ne réponde pas au téléphone et n'ouvre pas la porte, même si je me pendais à la sonnette. Peu de temps après, il réapparaissait, comme si de rien n'était. Tel un arc-en-ciel, superbe et insaisissable, il m'embrassait sur la bouche avec fougue, m'appelait « ma petite ». Le soleil jouait à cache-cache avec ses boucles blondes dorées. Puis il me prenait par la main, m'entraînait à sa suite et me présentait ses croquis, le regard vacillant. Il ne fallait rien dire. Un jour, alors que je ne connaissais Claude que depuis quelques mois, j'avais commis l'erreur d'exprimer spontanément mon point de vue. La tête penchée, j'avais réfléchi à voix haute, me demandant ce qu'on pouvait encore améliorer. Claude m'avait fixé, consterné, ses yeux d'un bleu translucide semblaient sur le point de déborder, et il avait envoyé valser, d'un mouvement vif de la main, tout ce qui se trouvait sur son bureau. Des tubes de peinture, des crayons, des feuilles, des pots, des pinceaux et des petits bouts de carton avaient été projetés en l'air comme des confettis. La fragile maquette de scène du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, fruit d'un travail méticuleux, s'était brisée en 1000 morceaux. Depuis, je gardais pour moi mes remarques critiques. Claude était très impulsif, d'humeur très changeante, très tendre et très particulier. Tout en lui était très. Il ne semblait pas y avoir de juste milieu. À l'époque, nous étions ensemble depuis 2 ans environ, et il ne me serait jamais venu à l'idée de remettre en question ma relation avec cet homme compliqué et extrêmement original. Après tout, quand on y regarde de plus près, chacun d'entre nous a ses complexités, ses fragilités et ses manies. Il y a des choses que nous faisons, ou des choses que nous ne ferions jamais, ou seulement dans des circonstances précises. Des choses dont les autres rient, à propos desquels ils secouent la tête, s'étonnent. Des choses étranges, qui n'appartiennent qu'à nous. Moi, par exemple, je collectionne les pensées. Dans ma chambre, un mur est couvert de bouts de papier de toutes les couleurs, chargés de pensées éphémères que j'ai fixées pour ne pas les perdre. Des pensées sur des conversations surprises au café, sur les rituels et leur importance, des pensées sur les baisers dans les parcs, la nuit, sur le cœur et sur les chambres d'hôtel, sur les mains, les bancs de jardin, les photos, des pensées sur les secrets et leurs révélations,